France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
C'est le sujet tabou du cancer, plus spécifiquement d'ailleurs sûrement du cancer du sein puisqu'on parle de la symbolique même de la féminité. Le tabou c'est l'amour, la libido, la sexualité, le désir. On demande à son médecin comment on réagira à la chimio, on lui demande comment va se passer la chirurgie, on parle de longueur de traitement, on parle de cicatrices, on parle parfois très vite aussi de reconstruction, mais la question qu'on ne pose pas ou beaucoup moins c'est est-ce que je n'aurai plus de sexualité? Est-ce que j'aurai encore envie de faire l'amour? Est-ce que ma libido va revenir si je la perds? Est-ce que je peux me faire aider? On ne pose pas ces questions parce qu'elles semble superflu parce qu'on est entièrement tourné vers la guérison, vers la survie et aussi parce qu'on a la trouille. Or, faire l'amour, c'est rester dans la vie, bien sûr, mais c'est aussi aimer jouer avec son corps et avec celui de l'autre. Et comment ça se passe quand on n'aime plus son corps? Comment on fait pour se le réapproprier avec ses cicatrices, avec ses douleurs? L'ablation d'un sein, c'est une blessure, c'est même une mutilation. Le reconstruire, d'accord, mais c'est pas magique non plus. Le cancer, la chimio, c'est aussi la fatigue, les vomissements, les cicatrices, la perte des cheveux, la sécheresse vaginale, c'est pas glamour, tout ça, c'est jamais glamour. Mais s'occuper de son désir, c'est peut-être aussi libératoire. Peut-être un pas pour certaines vers la guérison, certainement un exercice à deux. Le cancer ou la traversée du désir, comme l'a joliment titré Marie-Claire récemment, on en parle ce soir et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Alexandra, c'est vous la première, bonsoir.
Bonsoir et puis merci de prendre mon témoignage parce que là, cette émission, elle est totalement faite pour moi. Et elle est faite pour le grand club que nous sommes, des femmes qui ont eu un cancer du sein. Donc moi, j'ai 45 ans aujourd'hui, et à 40 ans, on m'a diagnostiqué un cancer du sein, et là, j'ai eu droit à la totale. Donc j'ai eu une ablation du sein, donc avec une énorme cicatrice qui est pourtant très correcte. Ensuite, j'ai enchaîné sur la chimio, donc j'ai perdu mes cheveux, j'ai perdu mes poils, j'ai perdu mes sourcils. Donc ça, c'est très compliqué pour se reconnaître. Mmh. Et puis bien sûr, la fatigue, le sommeil. La radiothérapie, donc là on se retrouve avec un corps mutilé et des marqueurs partout sur le torse, donc ça c'est pas très chouette non plus. Et j'ai enchaîné sur 5 ans d'hormonothérapie avec la magie, des bouffées de chaleur, l'humeur souvent maussade, pour moi une prise de poids. Mmh. Voilà, et donc petit à petit, moi je ne me suis plus reconnue du tout. Entre-temps, donc j'ai fait de la reconstruction par liporemodelage. Donc je précise que j'ai été traitée à Lorient, à l'hôpital du SCORF, qui est une équipe absolument formidable, que j'ai été reconstruite à Nantes par une chirurgienne géniale et que j'ai été suivie pendant tout ce parcours par une médecin généraliste juste hallucinante. Enfin, tout le personnel médical a été super, j'ai fait confiance, je me suis battue comme un bon petit soldat. Et aujourd'hui, donc j'ai terminé mon traitement d'hormonothérapie là, au début du mois, et c'est aujourd'hui seulement où je me rends compte, je me dis mais ma libido, où est-ce qu'elle est partie? Je n'en ai plus, en fait j'en ai plus, ça fait quasiment depuis le début du traitement. Et comme vous disiez en introduction, entre les diagnostics, les examens, les traitements et l'anxiété, et il faut se battre, ça devient la douzième roue du carrosse. Mmh. Je sais pas si on peut s'exprimer ainsi. Et aujourd'hui que je suis sortie de tout ça, que j'ai de nouveau un sein, que je me sens bien, je me sens belle, je me dis quand même, il va falloir retrouver tout ça. Et donc ma question, c'est si jamais ça ne revient pas, je patiente encore quelques semaines hein, après le traitement d'hormonothérapie. Je me laisse un petit peu de temps, voilà, parce que vu ce parcours de 6 ans, hein, voilà. Mais si ça ne revient pas, à qui je dois m'adresser? Voilà.
Eh bien, Alexandra, merci beaucoup. Merci vraiment pour ce premier témoignage parce que vous avez dit beaucoup de choses et vous le dites aussi avec beaucoup de sourire. Et merci aussi pour ça. Et c'est une vraie question que vous posez, évidemment. On va essayer d'y répondre jusqu'à 20h ensemble grâce à Catherine Adlertal. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes oncopsychologue, sexologue et vice-présidente de l'association Étincelle qui offre un soutien aux femmes victimes de cancer. Et bonjour Marc Espier.
Bonsoir.
Vous êtes cancérologue au centre des maladies du sein de l'hôpital Saint-Louis à Paris. Il y a beaucoup de choses dans le témoignage d'Alexandra qu'on vient d'entendre, Catherine Adlertal, mais je vous demanderai aussi à vous, Marc Espier, bien sûr. Elle dit les choses de manière crue. Elle a bien raison. C'est exactement comme ça que ça se passe. Soit, au fond, On pense à soi, oui, on pense à sa guérison, on pense à tout ça, mais on s'oublie en fait au fil de cette maladie.
Alors je dirais que c'est quand même du cas par cas. Hein. Ouais. Ça dépend vraiment des personnes. D'abord, on n'en parle pas toujours effectivement parce que bon, c'est pas la priorité. La priorité, mm-hmm. c'est de guérir et de se soigner évidemment. Mais on n'en parle pas aussi parce que parfois les femmes se disent mais on est en train de me soigner pour un cancer et moi si je parle de sexualité, c'est quand même très secondaire. Donc elles n'ose pas en parler. Les compagnons parfois n'en parlent pas en se disant bon, ma femme est en train de se soigner ou ma compagne pour un cancer et moi je pense à ça, mm-hmm. je vais passer pour un mm-hmm. quoi, pourquoi, pour qui, pour un obsédé. Les médecins n'en parlent pas forcément parce que ils sont pas formés pour ça et puis c'est pas leur boulot. Mm-hmm. Donc du coup effectivement chacun reste avec ses frustrations, mm-hmm. ce qui n'est pas toujours évident. Or effectivement faire l'amour ou en tout cas avoir une sexualité, ce qui est pas, enfin faire l'amour fait partie de la sexualité. La sexualité ce n'est pas
absolument.
Que avoir mm-hmm. Une relation sexuelle. Jusqu'au Covid, etc. Mmh. etc. C'est rester dans la vie. Et c'est important, surtout à un moment où on se sent effectivement, on ne se sent plus désirable, où on ne s'aime plus. C'est important, je pense, c'est même essentiel, de se sentir encore désiré et désirable dans le regard de l'autre.
Il y avait une question dans ce que disait Alexandra. Justement, elle disait, attendez, si ça ne revient pas, qu'est-ce que je fais ?
Eh ben, faut aller voir. Moi, je dirais, faut consulter, faut aller voir un sexologue, onco-sexologue, psychologue, pas forcément médecin, mais un psycho-onco-sexologue, parce qu'il y a quand même il y a aussi une grande part de psychologie dans la libido.
J'allais vous demander si les freins n'étaient pas que physiques.
Ce n'est pas que physiologique. Hein. Alors, il y a une part de physiologie, auquel cas, il y a aussi des médecins sexologues et même qui sont habitués ou qui connaissent la cancérologie. Il faut toujours s'adresser à ce type de médecin. Mais sinon, il faut aller voir quelqu'un, j'allais dire comme moi. Bon, c'est un peu prétentieux,
mais je
suis onco-sexologue, ouais. Donc c'est pour ça que je dis ça. qui connaissent bien la cancérologie, les problèmes que peuvent apporter le cancer et ses traitements. Et on peut en discuter et trouver effectivement des outils pour retrouver une sexualité satisfaisante.
Il y a des outils, ça existe, il n'y a aucune fatalité de cet ordre-là. Marc Espier, j'entends, et je pense qu'on va l'entendre pendant toute l'émission, j'ai pas osé en parler, j'ai pas voulu en parler, c'était pas le moment. Et du coup, quand on entend ça, on se dit peut-être que c'est peut-être mettre les pieds dans le plat, mais c'est le médecin qui devrait mettre la question sur le tapis à un moment, en fait.
Je crois qu'en effet, on doit en parler un moment. C'est vrai que c'est pas évident parce que c'est pas le sujet immédiat auquel on est confronté. C'est vrai qu'au début, on est parti dans la valse des examens, des traitements, etc. Et donc souvent, c'est pas ce qu'on va aborder en premier et le plus facilement parce que c'est vrai qu'on n'a généralement pas été formé pour en parler. Cependant, il y a plusieurs moments où on peut en parler. Quand on va éventuellement parler de la contraception, si jamais on a la chance d'avoir un couple de prévenir le couple qu'il peut y avoir en effet des problèmes. Moi, ça m'arrive souvent de dire attention, vous risquez, quand j'ai les deux, attention, vous risquez de plus vous sentir désirable et du coup, votre mari va interpréter ça comme elle a plus envie de moi, il y a des quiproquos qui se créent dans les couples.
Est-ce que vous parlez des fois à lui seulement quand il est là, par exemple, ça vous arrive de le prendre à part lui
Alors, non, non, parce que mon interlocutrice principale, ça reste la patiente. Mais j'essaye quand même de démarrer un dialogue à trois.
C'est compliqué de l'avoir, dialogue-là, ou pas ?
Oui, c'est pas facile parce qu'on n'y est pas habitué. Mais moi, c'est plutôt les prévenir qu'il risque d'y avoir des problèmes et que ça peut engendrer des quiproquos qui parfois vont aller jusqu'à des séparations sur des quiproquos. Et que c'est pas parce qu'une femme a un sein en moins, une perruque, que son mari ne l'aime plus. Elle se résume pas à un sein. Et donc, je crois que j'insiste pas mal là-dessus quand j'en ai l'occasion.
Allez-y, Catherine Adlertel, et on retournera au standard.
Oui, juste pour répondre au docteur Marc Espier, c'est que souvent le problème, c'est que chacun pense à la place de l'autre.
Bien sûr.
Et c'est ça le danger, effectivement, quand vous parlez de quiproquo. C'est je ne me sens plus désirable. Comment
donc,
peut-il
me
sentir désirable ? Et puis l'homme, c'est plutôt, elle a l'air fatiguée, j'ose pas y aller, etc. Et finalement, au lieu de... Moi, je suis évidemment pour la communication. Parlez-vous, ne pensez pas à la place de l'autre. Ça, c'est vraiment important, je crois. C'est vraiment, s'il y a un message, c'est celui-là.
Vanessa, bonsoir.
Bon.
Vous êtes là, Vanessa ?
Oui, je suis là.
Allez-y, on vous écoute.
Alors, moi aussi, j'ai subi un cancer du sein il y a 2 ans et demi avec le même traitement
Alexandra
mm-hmm. avec les rayons, la chimio, et là maintenant je suis en hormonothérapie pendant 5 ans. Et ce qui est très important en fait de dire, c'est qu'effectivement quand on a été touché dans son corps, dans sa chair, c'est que, enfin en tout cas pour ma part, ma féminité elle passait plus du tout par les organes féminins quoi. Mm-hmm. C'était totalement, ça avait disparu, c'est-à-dire que les seins c'était en gros un nid en merde. J'ai mis beaucoup de temps et je mets encore du temps parce que c'est encore assez frais pour me réconcilier avec mon corps. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut pas hésiter à se faire aider. C'est hyper important parce qu'on a honte, parce qu'on culpabilise, parce qu'on sent plus désiré. Enfin, tout ce que vous avez dit, mm-hmm. c'est extrêmement juste. Et moi, j'ai à un moment donné dit j'ai besoin d'aide, quoi. J'ai vraiment besoin d'aide parce que je m'en sors pas et je vais voir des médecins, psychologues dans un institut qui s'appelle l'Institut Raphaël, que certainement vous connaissez, qui aide les gens post-cancer à se réconcilier en gros avec soi-même. Quoi.
Et Vanessa, est-ce que vous étiez et vous êtes en couple ou pas du tout ?
Je suis en couple. D'accord. Et je tiens aussi à dire quand même pour les maris, parce que c'est pas facile, mm-hmm. ça fait des dommages collatéraux énormes, et que les maris qui restent, parce qu'il y en a aussi qui partent, et les maris qui restent sont aussi super courageux, parce que voir sa femme abîmée comme ça, ça fait des dégâts aussi dans les deux sens. Quoi. Donc il faut... Moi, j'ai eu un mari, et j'ai un mari très aimant qui a su me désirer malgré les pas de cheveux, pas de cils, pas de sourcils, enfin tout ça. Quoi. C'est extrêmement important.
Mais ça veut dire que vous avez réussi au moins à en parler avec lui, en tout cas. Alors, vous avez besoin d'autre aide, parce que je comprends qu'il y a des choses qu'on dit dans d'autres sphères et à d'autres gens, mais vous avez quand même réussi à avoir ce dialogue avec lui ou pas ?
Oui, on en parlait, mais à un moment donné, je comprenais plus pourquoi j'avais plus de désir. Alors, mm-hmm. ma question aussi, elle est, est-ce que l'hormonothérapie, ce médicament qu'on prend, qui s'appelle le tamoxifène, a un effet sur la libido? Parce que même encore aujourd'hui, c'est difficile, quoi. Je suis pas encore réconciliée mm-hmm. avec moi-même.
Merci beaucoup, Vanessa, pour votre témoignage. Merci. Est-ce qu'il y a un effet direct sur la libido, Marc Espier, ou pas?
Alors, je pense pas qu'il y ait un effet direct. D'accord. Cependant, c'est sûr que c'est des traitements, le tamoxifène par exemple, c'est un médicament qui va augmenter les bouffées de chaleur, qui parfois peut modifier les sécrétions vaginales, etc. Donc c'est toujours des traitements qui n'aident pas, hein, mm-hmm. ça c'est certain. Mais après ça surajoute à l'ensemble des phénomènes auxquels on est confronté quand on est pris en charge pour un cancer du sein. Donc je pense pas que ce soit le tamoxifène tout seul.
Est-ce que la reconstruction aide Catherine Adlertal ou pas forcément en fait? Parce qu'il y a quand même un laps de temps, la reconstruction elle se fait pas 3 mois après une opération, hein, ça dure...
Ça dépend des fois.
Alors,
ça
voilà.
dépend des
c'est fois. Vrai, ça peut se faire dans la foulée aussi.
Mais c'est pas parce que c'est immédiat que ça va forcément toujours mieux.
Exactement. Hein. Est-ce qu'on imagine à tort en fait qu'il suffira d'une reconstruction puis ça ira mieux après en fait?
Alors moi je vais vous dire, quand j'ai débuté en cancérologie, au début ça fait une petite vingtaine d'années, je pensais naïvement qu'une reconstruction immédiate, c'était la solution.
Bien sûr.
Je me disais, c'est formidable, parce que finalement, la femme ressort du bloc avec un sein. Mm-hmm. Mais finalement, pas tant que ça, parce que effectivement, elle rentre au bloc avec son sein, et elle ressort mm-hmm. avec un autre sein, mm-hmm. un corps étranger quelque part. Et il n'y a pas eu le temps de deuil aussi, le deuil du sein perdu. Et finalement, il y a plein de femmes qui m'ont montré des reconstructions qui, à mon avis, étaient magnifiques, et qui ne l'assumait pas, qui ne trouvait pas ça beau, parce qu'il n'y avait pas eu certainement ce temps de deuil, je sais, c'est pour elle, c'était, vous savez, je compare ça parfois avec une adoption. L'adoption d'un enfant, l'enfant adopte aussi ses parents et les parents adoptent l'enfant. Ben, pour le sein, c'est un peu pareil, hein. C'est le temps que le sein prenne bien sa place dans le corps et qu'on puisse adopter ce nouveau sein.
Je Donc, c'est pas dites, si évident c'est, que ça. C'est très bien fait, mais c'est pas un vrai, j'y mets des guillemets, mais c'est pas pareil, enfin, je veux dire.
Non, c'est pas
ça. Ça n'a rien à voir.
Exactement.
Hein. C'est une forme, c'est un volume, c'est visuellement parfois tout à fait joli, mais ça n'a plus la sensibilité du sein d'avant.
Il n'y a plus de sensibilité du tout. Ça
quasiment
ne
pas, ça ne bouge plus, c'est pas du tout la même chose, hein, même si c'est visuellement très satisfaisant.
Juliette, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Soyez la bienvenue, Juliette.
Oui, donc moi, on m'a diagnostiqué un cancer du sein juste après un divorce. Et du coup, j'étais seule quand j'ai appris ça. Et forcément, je me posais la question de savoir comment allait se passer ma vie intime par la suite. J'ai eu l'occasion de rencontrer presque en même temps quelqu'un de formidable qui a été impressionnant dans l'acceptation de la maladie. J'ai eu une ablation, j'ai pas eu de chimio, mais j'ai eu une radiothérapie et hormonothérapie. Et vraiment grâce à lui, on a pu avoir il m'a tout à fait mise à l'aise. On a une sexualité complètement normale, complètement épanouie. Et ce que je voulais dire, c'était que quand on était bien accompagné, c'était possible.
Merci beaucoup, Juliette, et c'est important. J'espère qu'on en entendra d'autres.
Évidemment,
des
évidemment.
Témoignages comme celui-là. Des fois, ça se passe bien aussi. C'est
pas
bien
des
aussi
fois,
de
souvent,
le dire.
Quand même.
Oui, il y a pas
souvent.
Du...
Vous avez bien raison.
Il y a pas du tout d'obligation au fait que ça
évidemment,
se passe mal.
Évidemment, hein. Mais c'est intéressant. Effectivement, c'est vraiment une question d'accompagnement, en fait. Catherine Adler, vraiment, et du regard de l'autre et de son propre regard. Enfin, à un moment, ça se passe à deux toutes ces histoires.
Puis ça dépend beaucoup du vécu qu'on a eu.
Ouais.
Tout à fait, oui.
Bonsoir, Elisabeth. Allez-y, Elisabeth.
Bonsoir.
Bonsoir, on vous écoute.
Donc, moi, j'ai 39 ans. Donc, ça fait 2 ans que j'ai subi une double ablation. J'ai jamais fait de chirurgie. J'ai pas voulu parce qu'en fait, je suis très sportive. Donc, en fait, ça m'allait bien.
D'accord.
C'était pratique. Et en fait, ça m'a interpellée, votre interrogation. Parce que moi, j'avais une relation stable. Donc, il s'est terminé, après. Et puis, depuis, excusez-moi le terme, mais c'est des coups d'un soir, en fait. Parce qu'en fait, se mettre toute nue, c'est difficile. Même si je pense que, moi, je suis jolie, je suis belle, voilà. Sauf que, voilà, il me manque deux tototes. Et, c'est difficile. Après, la libido, moi, je l'ai. Moi, j'ai juste fait de la chimio, l'ablation, la chimio. Et un autre traitement. Mais moi, la libido, elle est là. Mais le truc, c'est que je me sens un petit peu diminuée, quoi. Allez-y.
Elisabeth, alors vraiment, vous pouvez m'envoyer au plot si vous le voulez. Mais moi, je voulais savoir. Du coup, vous parlez des coups d'un soir. Je comprends très bien ce que ça veut dire parce qu'on n'investit pas sur une relation, mais. Mais du coup, est-ce que vous leur dites, en fait, vous dites c'est compliqué de se déshabiller, est-ce que vous leur dites aux hommes que vous rencontrez, ou est-ce qu'ils le découvrent en quelque sorte, en fait?
Non, ils le découvrent pas parce que je fais en sorte que de toute façon, passer la taille, ils montent pas les mains, enfin, voilà, c'est hygiène, enfin, ce que j'ai dit à votre collègue tout à l'heure, c'est ça devient presque hygiénique, quoi, mais parce que j'ai une libido, elle existe, et donc. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi la libido, elle devrait diminuer, non, ou disparaître. Elle est là. Après, c'est l'acceptation de son corps. Et moi, en fait, je crois que c'est là que je pêche.
Et comme d'autres, hein, en même temps, Elisabeth. Et du coup, je comprends quand vous dites, moi, je suis sportive, donc je me suis dit que j'allais pas faire de reconstruction. Mais aujourd'hui, quand vous sentez aussi cette difficulté, vous vous dites pas, je vais revenir en arrière et je vais aller la faire, cette reconstruction, ou pas?
Mais en fait, je vous ai dit, j'habite en Guadeloupe, moi, donc je suis très souvent, on est très souvent en petite tenue ou en tenue légère. Enfin, bon, moi, je fais beaucoup de sport nautique, etc. Donc, vous imaginez bien que tout le monde le voit, que je suis plate, quoi. Mais, j'aimerais bien faire de la chirurgie réparatrice si je suis sûre que si c'est pour avoir deux boulets devant. Ça m'intéresse pas, quoi. Si ça, je suis sûre que ça m'apporte les mêmes sensations qu'avant avec mes vrais seins. Donc j'ai fait le deuil, vous parliez de deuil tout à l'heure. Mais c'est ça le terme, hein. C'est faire un deuil. C'est comme quand on vous coupe un membre, vous faites un deuil. Il n'existe plus, mais vous pouvez le remplacer, mais ça sera plus le vôtre. Et si on m'assure pas les mêmes sensations et autres,
quel intérêt,
pourquoi,
du coup?
Pourquoi je le ferais, En fait, c'est pourquoi? C'est pour avoir deux tototes, racheter des soutifs. Enfin, quelque part, je me dis, si je le fais, c'est que ça doit m'apporter quelque chose.
Merci mille fois, Elisabeth. Merci vraiment pour ce témoignage, l'un ou l'autre. Je vous ai vu réagir pendant que Elisabeth nous racontait. Marc Espier, d'abord, peut-être.
Non, mais je pense que la reconstruction, ça peut aussi permettre de s'aider à réinvestir son corps. C'est-à-dire que là, visiblement, il y a toute une partie du corps qui est mise de côté. Hein. Et donc, je pense que parfois, là, la reconstruction, ça pourrait aider à se réapproprier son corps.
Et en même temps, ce sera
pas réconcilié.
À se réconcilier avec soi-même et à réinvestir une nouvelle image.
Et en même temps, j'aime bien quand elle dit ça, Elisabeth, elle dit « Ouais, mais si c'est pas les mêmes, donc c'est pas la même chose, ça sert à rien, en fait. »
Alors, c'est là que je suis pas tout à fait d'accord. Ce sera pas les mêmes, mais cependant, ça peut être autre chose qui peut amener parfois même à un mieux. Ça peut sembler paradoxal. Donc, je crois qu'il faut pas partir battu, quoi.
Le choix, Catherine Adlertal, de ne pas faire de reconstruction, mm-hmm. c'est un choix qui existe et ça arrive et ça
ah
s'entend
oui, ça arrive
d'ailleurs.
Souvent, mais c'est quand même pas anodin une reconstruction. Mm-hmm. Hein, c'est quand même plusieurs opérations, plusieurs. C'est au, je sais pas. Marc Espiel dira mieux que moi, mais c'est au moins 2-3 passages au bloc. Ça peut être, ça peut être douloureux. Enfin, bon, c'est pas anodin quand on a été charcuté déjà avant. On a peut-être pas envie d'y retourner.
Est-ce que c'est douloureux après?
Après la reconstruction.
Au début, ouais, au tout début de la reconstruction.
Oui, souvent. Non, on peut pas le cacher. Mm-hmm. Oui. Alors bon, maintenant, il y a des antidouleurs. Hein, mm-hmm. On fait en sorte que la patiente, ne souffre pas. Mais enfin, oui, ça peut être douloureux. Et puis il y a des femmes qui assument.
Hein, bien sûr.
Qui assument. Et puis alors, ça dépend si elles sont en couple, pas en couple. Si elles sont en couple et que le partenaire il l'aime toujours autant et que pour lui, effectivement, le corps de sa femme ne se résume pas à la poitrine. Il y en a qui finalement se disent, je suis bien comme ça. C'est pour ça qu'aussi la reconstruction en différé est intéressante. C'est que parfois elles se disent tout de suite, oh là, je vais me faire reconstruire, c'est pas possible, je peux pas rester comme ça. Et puis les mois passent, les années passent, et puis elles se disent finalement ça se passe bien, j'assume, mon compagnon m'aime de toute façon, j'ai une bonne sexualité, pourquoi je vais repasser au bloc, quoi. Donc il y a vraiment de tout, vous savez, c'est vraiment du cas par cas. Hein.
Marc Espier.
Ce que je voulais dire aussi, c'est que la libido, elle n'est pas forcément liée à l'importance du geste chirurgical. Mmh. Et c'est pas parfois parce qu'on a eu une mastectomie, voire bilatérale, qu'on va avoir une libido et une sexualité moins épanouie ou plus épanouie que quelqu'un qui a eu juste, comme on dit souvent, une petite tumorectomie. Mmh. Et il y a des femmes qui ont des, entre guillemets, petites cicatrices, qui vivent très très mal avec cette cicatrice, alors qu'aux yeux de tout le monde, c'est 3 fois rien. Non, c'est pas 3 fois rien. Elles ont été opérées d'un cancer et c'est cette image-là qu'elles ont dans la tête.
Hein. Tiens, je disais tout à l'heure que ce serait bien qu'on entende des hommes en voilà. Hein. Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu Olivier, on vous écoute.
Eh bien, ce que je voulais dire, déjà, c'est que nous, on a vécu cette maladie ensemble pendant 4 ans, avant que ma femme décède. Elle a subi plusieurs chimios, il y a eu des hauts et des bas. Et la question de la libido, nous, on l'a abordé assez facilement entre nous. Et on avait des difficultés à en parler avec l'oncologue. On voyait bien qu'il y avait une incidence des traitements dessus, mais l'oncologue avait des difficultés à répondre à nos questions, et donc il a fallu qu'on fasse avec. C'est compliqué de toute façon dans la place du conjoint, quelle demande, quelle attente on peut avoir alors que c'est la personne qu'on aime qui subit ça et qu'on peut que l'accompagner en fait. Là-dedans, c'est difficile de se dire qu'on doit avoir des attentes, mais nous, on en parlait librement. Et comme je disais à votre collègue tout à l'heure, moi, sur ces 4 ans de maladie, j'ai perdu ma femme, j'ai gagné ma meilleure amie, mais parce qu'en fait, la libido n'est jamais revenue et ça nous a. Mais malgré ça, quoi, l'amour a toujours été présent.
Merci beaucoup, merci Olivier pour ce témoignage. Marc Espier, sur ce que dit Olivier, surtout au début, le médecin ne savait pas en parler, visiblement était gêné ou savait pas quoi répondre. En effet, des fois on a envie de dire, renseigne-toi, chaton, renseigne-toi. Non.
Oui, mais enfin, bon, c'est vraiment après à chaque fois du cas par cas, donc c'est compliqué de répondre comme ça. Mais c'est vrai qu'on n'est pas formé à ça, bien ça sûr, c'est évident. Oui. Hein.
Et aller voir d'autres professionnels peut-être. Hein, le conseil qu'on peut donner, si l'oncologue ne sait pas répondre, on peut aller voir quelqu'un d'autre.
Oui, mais alors justement, le rôle de l'oncologue, si vous me permettez, Marc Espier, c'est certainement pas de répondre à des questions d'ordre sexuel, parce que c'est pas son job, mais ça peut être entre autres de diriger, de rediriger, de dire écoutez, moi, c'est pas ma partie, c'est pas mon secteur. En revanche, je vous conseille d'aller voir telle et telle personne, un sexologue ou une sexologue. Vous voyez, ça, je pense que les oncologues peuvent le faire.
Là, il y a quelque chose de très touchant aussi dans ce que disait Olivier. Alors, il explique qu'effectivement, la libido n'est pas revenue. Pour ce qui concerne sa femme, et elle parle de son meilleur ami. Moi, je me demandais s'il n'y avait pas une distance à trouver quand on est un couple dans cette situation-là, ou quand on est le conjoint, on n'est pas le garde-malade, mais on est le conjoint. On reste le conjoint.
Surtout pas le garde-malade, parce que ça, c'est très anti-érotique.
Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est la difficulté de trouver sa place là-dedans, en ayant bien conscience que bien sûr qu'on peut aider à des soins et autres, mais on n'est pas garde-malade, on n'est pas infirmier.
On n'est pas infirmier.
Je crois que c'est important que l'homme puisse montrer qu'il a toujours du désir pour sa compagne. Hein, je crois que c'est le mot désir reste essentiel.
Georgia, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Pardon de vous avoir fait patienter si longtemps, Georgia. On vous écoute.
C'est important ce que vous venez de dire. Je ne pensais pas qu'on l'aborderait. Moi, j'ai eu un cancer de la gorge à 48 ans. Donc, ça n'a pas eu d'ablation, effectivement. Mais c'est arrivé du jour au lendemain, à un moment donné de ma vie où je faisais énormément de sport. Je mangeais bio, je faisais très attention à moi. Donc, j'ai trouvé ça assez injuste. Et je me suis jetée dans la bataille quand on m'a annoncé ça. J'ai pris un coup de massue, comme c'est très bien expliqué. Je croyais qu'on parlait de quelqu'un d'autre quand on me l'a annoncé. Bon, mais c'était à moi qu'on annonçait que j'avais un cancer. Et donc, je me suis jetée dans la bataille en disant, bon, ben voilà, il y en a pour tant de semaines de traitement. J'y vais, je vais gagner. C'est ce que j'ai fait. Et je l'ai vécu comme ça. Et mon mari m'en a un petit peu voulu quand on a voulu en rediscuter, parce que j'ai pas voulu, comment dirais-je, je pouvais pas prendre en charge ses angoisses, peut-être déjà les miennes, et en tout cas, je ne voulais pas que ce soit mon infirmier. Mmh. Je ne voulais pas avoir de la pitié dans son regard, ça a été difficile, on parlait tout à l'heure, effectivement, ça impacte le conjoint, mais les enfants aussi. Bon, ma fille avait rentré en 6e à l'époque, ça a été assez douloureux pour tout le monde. J'ai pas perdu mes cheveux, mais j'ai eu des boutons, c'est des nouvelles chignots, des boutons d'acné plein le visage partout. Bon, j'ai réussi à vaincre tout ça, bon, sur un corps de 48 ans, perdre plus de 12 kilos, parce que le cancer de la gorge, j'ai pas du tout alimenté, j'ai des signaux, énormément de rayons, pour essayer d'enrayer tout ça. Et après, c'est les dommages collatéraux. Alors, je sais, j'ai posé plusieurs fois la question à l'oncologue, à mon médecin, pourquoi on parle pas de tous les effets qui peuvent arriver après? Mais on m'a expliqué que voilà, si on fait la liste, on vous dit, bah, attention, potentiellement, après, vous pouvez avoir ça, perdre vos dents. Mmh. Et on a découvert peu de temps après, j'étais anormalement fatiguée au bout d'un an ou deux. Mmh. Bon, ben, j'ai la thyroïde qui a été un petit peu grillée au passage. Mais voilà, ce qui m'a marqué dans tout ça, c'est que maintenant, 3-4 ans après, je l'ai récupéré, je me sens bien. Pour moi, c'est un souvenir qui est loin. Mais effectivement, j'ai découvert, bah, il y a quelques temps, j'ai osé enfin en parler depuis 3 ans, imaginez quand, dire voilà. Mmh. Je trouve que moi, je suis mariée depuis 20 ans, j'ai mon mari, et je trouve que c'est extrêmement difficile d'avoir une vie sexuelle. C'est très, très douloureux, ça fait mal.
Merci beaucoup.
Parce qu'effectivement, la signo assèche et méthode, c'est un sujet qu'on n'aborde pas trop, quoi. On n'ose pas trop en parler.
Merci beaucoup, Georgia. Merci pour votre témoignage, Marc Espier.
Non, c'est vrai qu'il y a des traitements qui, en induisant une ménopause, en fait, précoce, vont s'accompagner d'une sécheresse vaginale. Et c'est sûr que la sécheresse vaginale ne va pas aider aux relations sexuelles. Mmh. Alors, il y a des moyens pour y pallier, il y a des moyens pour la traiter, il y a des moyens pour la prendre en charge. Mais là, c'est important que les patientes en parlent à leurs médecins et que les médecins posent la question à leurs patientes.
Voilà, donc, tout est toujours une question de dialogue. J'aime bien dans ce que nous dit aussi cette auditrice, ce que dit Georgia. Moi, j'ai fait attention, je ne voulais pas que mon mari ait un regard de pitié sur moi. Il faut aussi, au fond, surveiller le regard de l'autre et des fois lui dire « Non mais attends, tout va bien, je ne suis pas
alors,
non plus... »
Alors, est-ce que c'est de la pitié ou d'inquiétude?
Oui, mais alors, après, c'est compliqué.
C'est pas le même sentiment. Non. Mais ça, je comprends effectivement que la pitié, c'est un sentiment désagréable, oui.
De même que les patientes, elles guettent le regard du médecin.
Bien sûr. Hein,
savoir comment le médecin les regarde. Mmh. Et je crois que maintenir dans le regard du médecin une forme de « Oui, vous êtes toujours séduisante, là encore, même si... » Eh bien, je crois que c'est important.
Bonsoir, Martienne.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue.
Merci.
On vous écoute.
Alors, voilà, je suis passée par la case aussi ablation, non pas du sein, mais de la grosseur. La chimiothérapie, la radiothérapie, l'hormonothérapie pendant 5 ans. Il y a de cela 10 ans. Quand ce cancer du sein a été trouvé, j'étais divorcée depuis 2 ans. Et j'étais en colocation et donc j'ai eu la belle chance d'avoir ma sœur, ma fille, mes amis autour de moi et moi qui fais de la voile. Nous avions un fort, beau, bel équipage et je veux témoigner ici que tout est difficile, bien sûr, je ne dis pas que c'était une partie de plaisir, mais je dis qu'il y a des effets collatéraux extrêmement positifs. Et que, voilà,
j'ai eu après un autre drame dans ma vie, qui est la perte du fils dans un accident de moto. Et là, c'était le psychisme qui faisait comme il pouvait pour se débattre. Et pour le cancer, c'était mon corps. Mon corps qui faisait, le pauvre, il savait plus donner de la tête et des aftes et les yeux collés, les pieds brûlés, tout ça. Alors, j'ai retroussé les manches et je me suis dit, eh ben, pas toute seule avec les autres, mais quand même, on est un peu seul avec ça, au fond de soi-même, eh ben, je vais faire tout ce qui est possible. Je vais faire tout ce qui est possible et voilà. Et ça, c'est mon job. Et tout s'est bien passé et en 2010, c'est-à-dire un an après la fin du traitement, j'ai fait une belle rencontre amoureuse qui a duré jusqu'en 2019, là. Et la libido était à son maximum. Et voilà, j'ai fait de belles rencontres à l'hôpital. Voilà, c'est pour moi, ça a été une belle expérience. Alors, je sais que c'est... Je sais que ça peut paraître terrible d'entendre ça, mais je vous jure que c'est vrai, quoi.
Merci beaucoup, Marcianne. Et autour de la table, ils font tous oui avec la tête, parce qu'on a bien compris que vous n'aviez pas, que c'était pas une promenade de santé, bien sûr. Vous avez été chercher le meilleur. En gros, c'est ce qu'elle nous dit, Catherine Adlertal, Marcianne.
Alors tout à fait, c'est très bien. En revanche, je dirais pas, mais c'est très personnel, hein, que le cancer est une belle expérience. Je pense que c'est quand même quelque chose de violent et de douloureux. En revanche, ce que je dis souvent à mes patientes, si malheureusement il vous est arrivé cette expérience, vous pouvez vous en servir pour un mieux. Ça, oui. Mais de dire que c'est une belle expérience, j'ai un peu de mal. Mais
Marc Espier, je pense que c'est ce qu'elle voulait dire, Marcienne, en
fait. Oui, certainement.
C'est-à-dire, bien sûr, tout ça est très traumatisant, mais c'est vrai qu'il y a des femmes qui rebondissent après ces traitements et qui en profitent pour changer leur vie, changer de mari, changer d'amant,
de travail,
et repartir sur de nouvelles bases. Et enfin, elles font ce qu'elles ont toujours eu envie de faire et qu'elles n'ont jamais osé faire, qu'elles n'ont jamais pu faire, et là, elles s'en donnent les moyens.
Ça donc, permet de
temps en temps,
aussi.
Ça permet de belles expériences.
Il y a autre chose.
Mais à quel prix?
Il y a autre chose dans ce que nous disait Marcienne, qui était très entourée, Vivian Colloc, elle avait sa sœur, sa fille, etc. Je repense à ce que nous disaient toutes ces précédentes femmes qui n'arrivaient pas à en parler à leur médecin, ou médecin qui n'arrivait pas à en parler, ou en couple, c'est difficile. Le biais, c'est peut-être aussi celui-là, en fait. C'est d'aller parler. Il y a des groupes de parole qui existent. Il y a des femmes qui peuvent échanger sur leurs expériences. Et peut-être que ça, on n'y pense pas assez souvent aussi quand on est au cœur de la maladie. Y compris sur ces sujets très intimes qui touchent à la libido, à la sexualité.
Oui, c'est important de rencontrer des personnes qui sont un petit peu dans le même cas que vous, des groupes de parole, comme vous dites, parce qu'il y a une complicité qui est là, parce qu'il y a une solidarité, parce qu'on vit... On vit jamais la même chose complètement, mais enfin, plus ou moins, on sait de quoi on parle, quoi. Vous voyez, je pense que quand on a une maladie comme ça, on a toujours une part de solitude. Il y a toujours, parce que finalement, il n'y a que soi-même qui pouvons vivre ce qu'on est en train de vivre. Vous voyez,
je sais pas si
je m'exprime bien,
mais je vois très bien.
Donc il y a toujours une part de la personne qui est seule. Mais effectivement, rencontrer comme disait, excusez-moi, mes prénoms,
Marcienne.
Comme disait Marcienne, le fait de quand on peut faire de belles rencontres à l'hôpital. Oui, tout à fait. Moi, ça c'est quelque chose que j'entends assez souvent, et ça peut faire des amitiés qui dure, et il y aura toujours cette complicité entre les personnes.
J'allais dire Marcienne, non, ça y est, Marcienne, vous avez parlé maintenant. Catherine, bonsoir.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue, Catherine.
Merci. Oui, je voulais également témoigner, mais j'ai entendu tout ce que j'ai vécu, je l'ai entendu depuis le début de l'émission, y compris Fabienne, vos questions. On se retrouve totalement dans beaucoup de témoignages. Et moi, j'ai appelé ça un tsunami au plan de la relation du couple, parce que c'est vrai que ça provoque des dégâts qui sont parfois irréversibles d'ailleurs. Je crois qu'on perd beaucoup dans sa féminité, et moi c'était il y a 20 ans, mais 20 ans après j'arrive toujours pas à me regarder dans la glace. Donc j'aurais peut-être dû consulter, comme vous l'avez dit à plusieurs reprises, mais j'arrive pas à en parler, j'en parle beaucoup plus facilement ce soir avec vous que je n'ai pu le faire avec n'importe quel médecin, parce que c'est un sujet qui est pas facile à aborder, et voilà, c'est le cancer du sein fait vraiment beaucoup de dégâts. Et je crois qu'on n'est pas préparé, on n'est peut-être pas suffisamment encadré aussi dans le suivi, mais au plan, voilà, au plan psychologique. Et mais je reconnais que j'aurais dû le faire de moi-même.
On ne sait jamais de votre faute par ailleurs dans ces cas-là, Catherine. Mais et peut-être plus encore parce que vous disiez que vous c'était une vingtaine d'années. Il y a des choses dont on parlait encore moins il y a une vingtaine d'années qu'aujourd'hui.
Il y a peut-être moins de psy dans les services aussi.
Moins de psy dans les services, peut-être des chances de survie qui étaient moins importantes. Du coup, on était encore plus arc-boutés sur... je sais pas ce que vous avez senti ça. Vous avez, y compris en écoutant les témoignages, Catherine, d'ailleurs, peut-être que vous sentez que les choses ont un peu évolué ces 20 dernières années.
Absolument, oui. Je le vois encore aujourd'hui. J'accompagne une amie qui est également dans ce cas-là. Mais il y a un suivi psychologique qui est très important maintenant, qui n'existait pas effectivement il y a 20 ans.
Merci
beaucoup. Il y a 20 ans, il n'y avait pas d'oncosexo.
Exactement.
Hein.
Vous avez inventé votre métier, en quelque sorte, vous et d'autres, Kathleen Adertal. Il y a quelque chose dans ce que dit Catherine que je trouve très émouvant, parce que je l'ai déjà entendu dire, moi, de la part d'une copine, je me souviens, qui me disait qu'elle passait dans la salle de bain en courant, pour ne pas se voir dans le miroir, en fait. Il y a ce moment où il faut respirer un grand coup, j'imagine, et être capable aussi d'affronter l'image de soi pendant cette période-là, Marc Espier.
Oui, c'est sûr. Il y a des tas de réactions différentes. Moi, j'ai le souvenir d'une patiente qui me disait qu'en effet, elle masquait tous les miroirs de son appartement pour pas se voir. Donc ça existe. Mais enfin, c'est quand même plutôt des exceptions.
Bonsoir Martine.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue Martine.
Donc c'était pour donner un message, moi, très positif. J'ai eu en fait un cancer du sein. J'ai décidé avec mon mari tout de suite de faire une mastectomie. J'étais une femme qui n'avait pas de poitrine et donc une féminité plutôt, on va dire, réduite, entre guillemets. Et moi, à travers la reconstruction, j'ai gagné en féminité. J'ai été opérée deux fois pour bien faire l'opération. J'ai été suivie par une oncologue qui était spécialisée en reconstruction à l'Institut Gustave Roussy. Et je suis ravie. Pour moi, c'est finalement quelque chose de positif. Même si mon sein reconstruit, évidemment, n'a pas du tout de sensibilité. Et les dames qui ont témoigné avant ont raison. Et moi, je m'en accommode. Avec mon mari, je fais en sorte que des fois le bon côté soit au bon endroit, entre guillemets. C'est une façon entre nous de...
Mais évidemment.
Je sais, quoi. Et donc, je l'ai totalement intégré dans ma vie, dans ma sexualité. Et j'essayais aussi, je trouve que c'est important de témoigner positivement pour aussi dire à des dames que ça peut se passer bien.
Merci beaucoup Martine pour ce témoignage. C'est important de finir aussi sur ce témoignage-là, Catherine Adlertal. Et pourquoi pas en profiter pour se regonfler la féminité. C'est un peu ce que nous dit Martine.
Pour faire une pierre de coups.
Mais tant qu'à faire.
La chirurgie esthétique.
Mais attendez,
c'est
moi j'ai lu un témoignage.
C'est pas la chirurgie esthétique. C'est quand même la chirurgie réparatrice.
Absolument. Mais j'ai lu un témoignage qui disait ça en préparant cette émission d'une jeune femme qui disait j'en ai profité pour me faire une poitrine un peu plus grosse. Après tout, puisque je le voulais, essayons de transformer ça en quelque chose qui va au moins me faire plaisir.
Bah écoutez, tant mieux. Moi, j'aurais juste à dire qu'il y a des femmes qui ont très peu de poitrine et qui sont très féminines, quand même.
Bien sûr, non, mais évidemment, la féminité n'était pas que dans la poitrine, parce que moi aussi, j'ai écouté le début de l'intervention de Martine, mais peu importe. Marc Espier, là-dessus aussi, c'est l'idée d'essayer de trouver une issue positive à ce qu'on traverse quand c'est si compliqué.
J'ai failli dire chacun fait comme il peut, et c'est très bien ainsi.
Voilà, comme il peut, comme il veut, comme les choses aussi se présentent pour chacun. Ce qui est important aussi peut-être de rappeler, pour conclure Catherine Adlertal, c'est que si on a cette conversation, c'est aussi parce que, d'abord le cancer du sein se guérit beaucoup mieux qu'il ne se guérissait il y a une vingtaine d'années, comme nous l'a raconté notre auditrice d'avant, et surtout, il n'y a pas d'âge. Il y a cette espèce d'idée préconçue qui dit que, mais de toute façon, c'est une histoire de femme d'un certain âge.
Non,
donc,
c'est pas vrai.
Exactement.
Non, ça,
et c'est bien de le rappeler aussi.
J'ai pas les stats. Bon, Marc Espier les a certainement que moi, les statistiques. J'ai pas les stats en tête. Mais moi, personnellement, dans ma patientèle, il y a beaucoup de femmes jeunes.
Et j'imagine bien, et j'imagine que là-dessus, vous êtes d'accord, Marc Espier.
Oui,
c'est
oui,
bon,
oui. Il y a,
la
à peu près 10 000 cancers du sein qui surviennent chez des femmes de parents, tous les ans en France, de moins de 40 ans.
Voilà, la sexualité n'a pas d'âge, mais jeune, encore moins. Merci beaucoup. Merci.
Mais on est femme à tout âge.
Mais absolument. Et mais vous savez qu'on prépare un téléphone sonne sur l'amour au-delà de 70 ans. On sera ravis de le faire et de s'en souvenir. Merci beaucoup. Merci vraiment à tous et toutes, surtout pour ces très nombreux témoignages. Et portez-vous bien, il est 20h sur Inter.